chères auditrices de Mail de Résistance, Radio Galère 88.4. Ce soir, nous allons parler à nouveau, comme nous l'avions fait il y a 15 jours, du festival War on Screen, qui est un festival du cinéma de guerre à Châlons-en-Champagne, qui vient juste se dérouler. Là, je viens juste sortir de la soirée de fin. Avec un film magnifique, je vais vous en parler tout de suite. C'est un film de Michel Hazanavicius, La plus petite marchandise, qui va sortir très prochainement sur écran. C'est un film d'animation qui parle de manière extrêmement humble de l'Holocauste. On y voit une petite fille qui est laissée dans la neige, certainement en Pologne, d'un des trains qui partait dans les camps de concentration. Et cette petite fille est récupérée par une dame qui est très pauvre et qui a pour métier, pour la principale activité, de ramasser des branches d'arbres pour faire du feu. Elle fait des fagots de bois. Et donc, c'est un film que je vous conseille d'aller voir quand il sortira. Le film est de Michel Hazanavicius, je l'ai déjà dit, et c'est un film d'animation à voir absolument. Il y a une façon très très pure de traiter de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film qui parle d'amour, qui parle de l'enfance, et qui parle également d'une manière très fine. De l'innocence des uns et des autres. Et c'est un film qui fait un peu redondance avec un autre film que j'avais vu quand j'étais très petite. C'est un film qui est sorti dans les années 70 de Claude Lelouch, Les uns et les autres. Ce film-là raconte aussi l'histoire, entre autres, d'un bébé qu'on a laissé, d'une petite fille qu'on a laissée sur la voie. Ses parents étaient dans un des trains qui allait dans les camps et elle devient danseuse. Elle devient danseuse étoile. Dans le film, le film Les uns et les autres est très marquant. Il me semble qu'il n'a pas encore été présenté à War on Screen. Peut-être que ça va être le cas plus tard. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller le voir. Je ne peux pas en parler beaucoup plus parce que c'est un film très émouvant et je suis encore un peu sous le coup de l'émotion. C'était pour faire l'entrée avec le festival tel qu'il s'est déroulé cette semaine. Un festival lors duquel on a vu beaucoup de films. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Soundtrack ou Au coup d'État, un film belge de Johan Grimont-Prez qui raconte l'indépendance du Congo en toile de fond. Et ce film associe la vague d'indépendance africaine des années 60 avec les mouvements des droits civiques aux États-Unis, la guerre froide et puis l'arme la moins conventionnelle des États-Unis, le jazz. On y voit beaucoup de vedettes du jazz, de la musique jazz, de Miles Davis en passant par Louis Armstrong. Et c'est un film qui est assez exceptionnel. Il raconte l'assassinat de Lumumba, qui a été quelque temps à la tête du gouvernement congolais nouvellement indépendant. Et qui a été assassiné parce que juste à côté il y avait le Katanga dans lequel il y a beaucoup de gisements d'uranium et donc il n'était pas possible de laisser le Congo être indépendant à cause justement de ces gisements. Un autre film qui est un autre film qui m'a marqué sur le thème du débarquement, avec le thème Difficile Libération, le film La Douleur, qui est aussi un film qui est sorti en 2017. C'est une fiction. Le réalisateur est Emmanuel Finkiel. Il a énormément de talent. Le film est abasourdissant puisque le réalisateur a très bien filmé l'intérieur des personnages et la manière dont Marguerite Duras, puisque ça raconte l'histoire de Marguerite Duras, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale s'est acharnée à faire libérer son mari qui avait été emprisonné dans les camps. Et donc elle arrive à le retrouver. Grâce à un policier français qui fait partie de la milice et il y a un double jeu, un jeu très intéressant. Chaque acteur essaye de tirer les ficelles à lui. Marguerite Duras essaye de savoir où est son mari et comme elle fait partie d'un groupe de résistants, le policier de la milice française essaye lui de son côté de lui soutirer des renseignements. Donc il y a un double jeu entre les deux acteurs, c'est très intéressant et la manière dont c'est filmé, c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille d'aller le voir quand il sortira aussi. Les textes sont de Marguerite Duras, Mélanie Thierry y campe une Marguerite Duras qui est très vivante, et puis elle a beaucoup de talent. Il y a aussi dans le film Benoît Magimel et Benjamin Biolay. Et le scénario est aussi de Emmanuel Finkiel. Donc en juin 1944, France sous l'occupation allemande, c'est Robert Antelme, le mari de Marguerite Duras, qui était alors une figure majeure de la résistance, qui a arrêté et déporté. Et sa jeune épouse Marguerite angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et prête à tout pour retrouver son mari. Elle se met à l'épreuve d'une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l'aider. Le thème difficile libération a été suivi lors du festival War on Screen avec plusieurs films. Aller coucher ailleurs, de Howard Hawks. En Allemagne vaincue, un capitaine français et une lieutenante américaine sont forcés de travailler ensemble et malgré de multiples péripéties, ils tombent amoureux. Alors ça, c'est une comédie avec des gags. Il y a eu Bastogne, un film américain avec William Wellman comme réalisateur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près du village de Bastogne, dans les Ardennes, un groupe de soldats américains livre bataille contre les Allemands. Et pendant cet hiver brumeux et neigeux, chacun des deux camps va devoir garder le moral afin de continuer le combat. Les Allemands, face aux Américains cernés qui refusent de se rendre, décident alors de lancer des missions de sabotage jusqu'à ce que la situation se retourne contre eux. Rappelons que depuis le 6 juin dernier et le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, les célébrations se sont succédées et ont rappelé que la libération du territoire français et européen s'est faite progressivement. Certains territoires français ne se seront libérés que bien plus tard, en 1945. Soldats alliés et résistants continuent de combattre et de tomber, alors que l'espoir d'une victoire sur le nazisme et d'une paix prochaine grossit à chaque avancée. Pour les familles et les compagnons des disparus, l'euphorie de chaque territoire libéré s'accompagne de l'attente déchirante d'un hypothétique retour. Avec ce cycle, nous voulons rappeler ce que nous disent les organisateurs du festival, nous voulons rappeler ce que coûte la libération d'un territoire, les avancées, mais aussi les coups d'arrêt. Ce sont ces sentiments intenses et parfois difficiles, trop souvent masqués par la vision rétrospective des commémorations, qui nous font voir ces événements à l'aube de la victoire de 1945. Dans cette programmation volontairement très variée, il y a eu un documentaire coproduit par l'ECPAD sur les 100 jours qui ont suivi le débarquement en Normandie, D-Day, un grand film de guerre américain de 1949 sur la bataille des Ardennes, donc Bastogne de William Wellman, le chef-d'œuvre de Roberto Rossellini, Paisa, qui compte la reconquête de l'Italie par les Alliés, et enfin, le formidable film de René Clément, Le jour et l'heure et Le franc-tireur de Jean-Max Causse, qui rappelle chacun à leur manière l'importance de la résistance et des maquis. Enfin, le très fort film réalisé par André Cayatte, Henri-Georges Clouzot, Georges Lampin et Jean Dréville, Retour à la vie, aborde la question du retour des prisonniers et des déportés politiques tel qu'on le représentait en 1949. Voilà. Aller coucher ailleurs, enfin, avec Cary Grant en capitaine de l'armée française aux prises avec l'administration américaine dont dépend sa dulcinée, elle-même membre des forces armées de l'oncle Sam. Voilà pour ce thème-là. Ensuite, il y a eu d'autres films. La guerre vue par Frédéric Weizmann. Depuis la fin des années 60, Frédéric Weizmann déploie une œuvre monumentale d'une exceptionnelle densité, plus de 40 films, cohérence et pertinence. Le réalisateur américain filme depuis plus de 50 ans avec rigueur et sans relâche les institutions américaines, hôpital, tribunal, école, centre d'action sociale, musée, pour en révéler le fonctionnement, la complexité et à travers elle la condition humaine. La force du travail de Weizmann tient à l'acuité de la force de son regard, pardon, à son humour, mais aussi à sa méthode. Absence de repérage, équipe réduite, matériel léger permettent au réalisateur, preneur de son sur ses films, de tourner beaucoup et longtemps. Vient ensuite le temps du montage, quotidien, monacal et précis, qui structure ses films. Chez Weizmann, le principe accumulatif d'une matière anecdotique se révèle au montage pour produire une vision, et in fine, du politique. En cette année de célébration et de restauration de ses films, notamment grâce au soutien de Steven Spielberg, l'équipe de Warren Screen n'a pas pu faire l'impasse sur son travail autour des institutions militaires américaines qu'il engage entre 1971 et 1987. Le festival Warren Screen a exploré trois de ces cinq films, des cinq films qui leur sont consacrés. Donc Basic Training, qui est sorti en 1971, où il suit, telle une chronique, le processus de formation des jeunes recrues de l'armée américaine dans le camp militaire de Fort Knox, dans le contexte particulier d'une Amérique contestataire qui s'enlise inexorablement au Vietnam. Quelques années plus tard, les jeunes recrues de Fort Knox deviennent, dans Manœuvre, qui est sorti en 1979, des militaires professionnels, envoyé en Allemagne pour des répétitions grandeur nature dans le cadre d'exercices de l'OTAN, et nous sommes alors en pleine guerre froide. Enfin, troisième film, Retour en Californie avec Missile, sorti en 1987, qui nous plonge au cœur des arcanes du commandement stratégique aérien et de la force nucléaire américaine. Un coup de force dans la carrière du cinéaste. Si Frédéric Weizmann est un cinéaste engagé et exigeant, il ne prend jamais les spectateurs en otage et ou fait ouvrir aux spectateurs grand les yeux sur un des cinéastes, sur une époque. C'est une fabrique du regard et il en était question au festival Warren Screen. Il y avait beaucoup de politique, c'est le cas de le dire, et il était question de fabrique du regard, c'est exactement le terme approprié. Deuxième temps fort, autre temps fort du festival, cette année il y avait un thème qui s'appelait « La guerre vue par Costa Gavras ». Costa Gavras incarne un profond engagement vis-à-vis de l'art cinématographique, sa joyeuse impureté, un spectacle exigeant, un récit vif et prenant, amenant les spectateurs dans des zones obscures que nombreux aimeraient laisser dans l'ombre et qu'il n'a jamais cessé de se confronter à la dureté des réalités idéologiques et géopolitiques depuis près de 60 ans. Cet engagement du cinéma, Costa Gavras l'a porté comme président de la Cinémathèque française depuis 2007, et déjà une première fois entre 1982 et 1987, mais avant tout, dans son œuvre forte de 20 films reconnus et primés, Oscar, Palme d'Or, Ours d'Or, dans le monde entier. Arrivé de Grèce à Paris à 22 ans, Costa Gavras a commencé très vite à travailler comme assistant des grands réalisateurs de l'époque. Il est d'ailleurs assistant de René Clément en 1963 sur le tournage de Le Jour et l'Heure avec Simone Signoret, qui y a été projeté dans le cycle 1944, Difficile Libération comme nous venons de le dire. Dès son premier film en 1965, le génial film noir Compartiment tueur s'affirme une écriture cinématographique audacieuse, incisive et originale. Mais c'est avec Z, prix du jury à Cannes, en 1969, 2 ans après la prise du pouvoir des colonels en Grèce et doublement oscarisé en 1970, qu'il acquiert une place à part dans le cinéma mondial. suivront L'aveu en 1970, adapté du roman d'Arthur London, avec Yves Montand qui, avec ses lunettes aveugles, incarnera désormais le visage des crimes staliniens, et État de siège en 1973 sur l'implication des États-Unis dans les répressions sanglantes des mouvements révolutionnaires et autochtones en Amérique latine. C'est cette trilogie qui a été proposée en découverte par Le Regard lors d'une masterclass exceptionnelle, puisque jeudi dernier, Costa Gavras était présent et il a présenté sa filmographie et discuté avec son public. Donc le festival War on Screen est revenu sur l'œuvre de ce grand cinéaste engagé et humaniste, et la manière dont le cinéma permet de confronter à un monde livré aux forces obscures ou tout semble bloqué. De film en film, parce qu'il y en a eu plein d'autres après, et il va y en avoir un autre qui va bientôt sortir, Costa Gavras n'a jamais cessé d'aiguiser chez les spectateurs la réflexion, l'espoir de la liberté et l'esprit de résistance. Donc c'était un autre temps fort. D'autres films, Voyage au bord de la guerre, en présence de Antonin Peretchatko, qui nous parle de l'invasion russe et de 12,5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur foyer, dont 5 millions ont quitté leur pays. Andrei est en France avec femme et enfants, et le réalisateur l'a accompagné en Ukraine chercher des affaires personnelles à Lviv, là où son grand-père a grandi. Antonin Peretchatko a commencé sa carrière dans une série de courts-métrages acclamés dans French Kiss en 2005. Son premier long-métrage, La fille du 14 juillet, a été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2013, et en 2016, il a tourné La loi de la jungle en Guyane française, suivi de la pièce rapportée en 2021. Il continue à réaliser des courts-métrages comme Les rendez-vous du samedi et Les algues maléfiques. Son dernier film, Voyage au bord de la guerre, est un documentaire tourné en Ukraine. Tatami, un film super intéressant, qui est un film géorgien, tourné et américain, qui est sorti en 2023, réalisé par Zar Amir Ebrahimi et Guy Native, et interprété par Ariane Mandi, Zar Amir Ebrahimi et James Ray Newman. La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Mariam se rendent au championnat du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or à l'Iran. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique ordonnant à Leila d'abandonner pour éviter une possible confrontation avec l'athlète israélienne. Sa liberté est en jeu, Leila se retrouve face à un choix impossible, se plier au régime iranien ou se battre pour réaliser son rêve. Donc dans le film, on voit que, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais elle va continuer à tout prix, malgré les menaces du gouvernement iranien, et elle va finir par se battre quand même. Bon, mais elle perd, parce que comme elle va perdre, donc elle va pas jouer contre l'athlète israélienne, mais elle va partir de son pays, elle va continuer à être championne pour un autre État. Le réalisateur, Zar Amir, est d'origine franco-iranienne. Zar Amir est actrice d'origine franco-iranienne. Elle est productrice et réalisatrice, ainsi que directrice de casting. Elle s'est fait connaître avec son rôle dans le thriller Les Nuits de Mashhad, qui a fait beaucoup de bruit en 2022 et qui lui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Elle a été le Robert Award de la meilleure actrice. Guy Native, le réalisateur israélien, a signé son premier court-métrage américain, Skin, en 2019 et a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage. Il l'a ensuite développé en long-métrage, et en Israël, il a écrit et réalisé 3 longs-métrages, Maboul en 2012, Magic Men en 2014 et Strangers en 2008, qui a été présenté au festival Sundance. Rendez-vous avec Pol Pot, un film de Riti Pan, qui est né à Phnom Penh au Cambodge en 1964. Il a été interné à l'âge de 11 ans, comme tous les Cambodgiens, dans les camps Khmer Rouge de réhabilitation par le travail. Et 4 ans plus tard, s'est échappé et est arrivé au camp de réfugiés de Meerut en Thaïlande. Un an plus tard, il s'est installé en France et en 1985, il est entré à l'IDEC, et a dédié la plupart de ses films à son pays d'origine parce qu'il a été traumatisé par des massacres d'une violence extrême sous le régime de Pol Pot. Sans cette guerre, je ne serais jamais devenue cinéaste. Je témoigne pour rendre aux morts ce que les Khmers rouges leur ont volé. Je suis un passeur de mémoire en dette vis-à-vis de ceux qui ont disparu. En dette parce qu'ils se sentent coupables, comme beaucoup de gens qui ont échappé à des massacres, alors que lui est resté survivant. Et il montre bien par son message et ce que je viens de lire, que le cinéma est un formidable passeur de mémoire et ainsi qu'une fabrique de l'image. C'est-à-dire qu'il fabrique chez les spectateurs et dans son public des images qu'il n'aurait su voir s'il n'y avait pas eu le film, puisqu'on ne peut pas voir toutes les guerres, et grâce au cinéma, on peut les voir. On a pu voir des images d'archives de ce qui s'était passé pendant les différentes guerres du XXe siècle, qui ont marqué le XXe siècle, et on peut voir des images de guerres qui sont loin, dont on n'entend parler que dans les journaux, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que la guerre et qu'est-ce qui se passe exactement. C'est le but d'ailleurs du festival War on Screen. Les graines du figuier sauvage est un film de Azal Bagheri, qui est spécialiste du cinéma iranien. C'est un film allemand, français et iranien. Mohamed Razoulov, qui est le réalisateur, les graines du figuier sauvage ont été présentées par Azal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien, mais le film a été tourné par Mohamed Razoulov, qui est né en Iran en 1972 et qui réalise des films pour le cinéma en parallèle d'études de sociologie. L'analyse des relations sociales et de la façon dont l'individu et la société sont affectés dans un pays au gouvernement dictatorial est au cœur de son travail. En 2002, il a réalisé son premier long-métrage, The Twilight, et en 2011, avec son film Au revoir, il a remporté le prix du meilleur réalisateur. Un certain regard au Festival de Cannes et Un homme intègre reçoit le Grand Prix de cette même section en 2017. Après de multiples condamnations et de la prison par la justice iranienne qui l'accuse de propagande contre le régime, il réalise dans la clandestinité Le diable n'existe pas, Ours d'or à la Berlinale 2020. Et dans le film Les graines du figuier sauvage, qui n'est pas encore sorti, qui va bientôt sortir, puisque c'est un film qui a été réalisé en 2024, Iman vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. À la maison, ses deux filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme, Najmeh, tente de ménager les deux camps. La paranoïa envahit Iman lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Un film à voir. Autre film intéressant sur un autre thème, Bye Bye Tibériade, de Lina Swalem, une réalisatrice et comédienne qui est née à Paris, d'un père algérien et d'une mère palestinienne. Après des études d'histoire et de sciences politiques à l'université de la Sorbonne, Lina a travaillé en tant que programmatrice pour le Festival international de cinéma des droits de l'homme en Argentine. Son premier long-métrage documentaire, Leur Algérie, a notamment été primé à Cinémed et à Cinémania. Son deuxième long-métrage documentaire, Bye Bye Tibériade, a été sélectionné en première mondiale au Festival international de Venise et de Toronto. Bye Bye Tibériade a été nommé pour représenter la Palestine aux Oscars en 2024. Et dans le film Bye Bye Tibériade, Ayam Abbas a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses 7 sœurs. 30 ans plus tard, sa fille Lina, réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de 4 générations de femmes palestiniennes. Véritable tissage d'images du présent et d'archives familiales et historiques, le film devient l'exploration de la transmission de mémoire. Il y a eu beaucoup de films sur Gaza et sur la Palestine. Par exemple, j'ai vu un film qui s'appelait un film sur Gaza, que j'arrive pas à retrouver le film. c'est un film, Voyage à Gaza, voilà, Journey in Gaza, en présence de Piero Sberti, un jeune réalisateur italien, un jeune homme originaire de Toscane, qui a suivi une formation théâtrale au Teatro della Pioggia de Sienne. Il interprète au cinéma dans plusieurs films de fiction, il obtient une licence de philosophie à l'université de Turin en 2017, et il a réalisé un premier film documentaire sur cette ville, Un altro giorno, en 2018, donc sur la ville de Turin. Il s'inscrit dans un programme d'échange universitaire avec la Palestine et il a passé 3 mois à Gaza au printemps 2018. C'est un film qui a beaucoup, c'est un jeune réalisateur qui a beaucoup de talent. Et notamment, ce film est très marquant. Il y a beaucoup de symbolique dedans. Et mais il y a aussi à la fois c'est un film qui mélange la symbolique, mais en même temps qui montre des vraies personnes, des êtres humains qui vivent à Gaza tous les jours, qui vivent, qui s'amusent, qui font des choses, qui sont créatifs. Et qui ont beaucoup d'espoir. Et c'est un film où il y a beaucoup d'espoir. À Gaza, il faut arriver le soir au printemps, s'enfermer dans sa chambre, écouter les sons qui entrent par les fenêtres ouvertes. Nous sommes en 2018, j'ai 25 ans, je suis un voyageur étranger. Je rencontre des jeunes Palestiniens de mon âge. Un film très... très dénué de faux semblants ou de choses pas indispensables. Dans ce film-là, il y a vraiment l'essentiel. Le parfum d'Irak de Ferhat Alani et de Leonard Cohen, un film documentaire qui est sorti en 2024, qui est un documentaire d'animation basé sur l'histoire de Ferhat Alani, journaliste franco-irakien, qui a grandi à Paris et qui découvre le pays de ses parents sous la dictature de Saddam Hussein, l'occupation de l'Amérique et le contrôle de l'État islamique entre 1989 et 2017. Le film suit l'évolution de Ferhat de l'enfance à l'âge adulte et sa conscience croissante des réalités sociales et politiques de l'Irak. Voilà. Ferhat Alani a été correspondant à Bagdad entre 2023 et 2008 de Ouest France, La Croix et Le Point. Donc il est journaliste. Il a rejoint l'équipe de l'effet papillon de Canal+, où il a réalisé des reportages sur l'Irak, les États-Unis, l'Égypte. Reporter et producteur, il a collaboré régulièrement avec Arte, Canal+, France 24 et Al Jazeera. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et avec son film de fin d'études Plateau, il reçoit le prix du jury jeune au Festival d'Annecy. Et sa série Le Chiffroscope sera diffusée pendant 3 ans sur Canal+. Il a participé également à la série J'ai rêvé de l'Europe sur Arte. Et il a travaillé sur ce film documentaire en couleur en collaboration avec Leonard Cohen. Mexico 86 raconte les menaces de mort qui forcent Maria, une militante guatémaltèque, en 1976, à fuir au Mexique, laissant son fils derrière elle, sous la dictature militaire. Et 10 ans plus tard, elle revient, elle est contrainte au Guatemala, elle est contrainte de choisir entre ses devoirs de mère et la poursuite de son activisme révolutionnaire. Un film tourné par César Diaz, qui est né au Guatemala en 1978 et qui, après des études au Mexique et en Belgique, a intégré l'atelier scénario de la FEMIS à Paris. Depuis plus de 10 ans, il est monteur de fiction et de documentaires et il a également réalisé les courts-métrages documentaires Semillas de Cenizas, présentés dans une vingtaine de festivals internationaux, ainsi que Territorio Liberado. Il a été lauréat du prix IMCIN au Mexique. Pour le film Nuestras Madres, sélectionné à la 58e semaine de la critique du Festival de Cannes et récompensé de la Caméra d'Or en 2019. C'est son premier long métrage de fiction, Mexico 86, et son deuxième long métrage. Hollywood Gate, un film à voir absolument si on veut mieux savoir ce que c'est que le régime taliban. Un film réalisé par Ibrahim Nashat qui a été présenté par Abdullah Mostafa, producteur délégué, ce jour, ce dimanche dernier, le 12 octobre, à Châlons-Champagne, au Festival Warren Screen, où on voit, au lendemain du retrait des États-Unis d'Afghanistan, les talibans occupaient immédiatement le complexe d'Hollywood Gate, ancienne base de la CIA à Kaboul. Ils trouvent des avions, des armes, des équipements militaires de grande valeur, qu'ils utilisent. Déconcerté par la technologie, Malawi Mansour, le commandant de l'armée de l'air, ordonne à ses soldats d'inventorier et de réparer tout ce qu'ils peuvent. En l'espace d'un an, le film expose la transformation d'une milice fondamentaliste en un régime militaire. C'est un film abasourdissant, il faut absolument aller le voir quand il sortira, il a été tourné en 2023. Il est documentaire, mais on n'aura pas une miette du début jusqu'à la fin. Ibrahim Nachat a eu beaucoup, beaucoup de courage, il est resté un an avec les talibans à filmer. On sent la peur pendant le film parce que c'était pas évident de se retrouver avec ces gens qui sont parfois qui peuvent parfois être imprévisibles. Il a eu une formation en journalisme et un master en réalisation documentaire de la Met Film School. Il a perfectionné son art en travaillant avec des chaînes internationales et des plateformes en ligne et il a co-dirigé le dernier film du réalisateur Talal Darki, nommé aux Oscars le film s'appelle Under the Sky of Damascus. En tant que cinéaste, Ibrahim Nachat se consacre à raconter des histoires qui traversent les frontières et promeuvent la diversité. Sa passion pour la narration est indéniable dans chaque film qu'il édite, produit ou réalise. Hollywood Gate est le premier long métrage d'Ibrahim qui a été présenté en avant-première au Festival du film de Venise. Je terminerai par, parce qu'il y en a plein d'autres des films, il faut aller voir le site de War on Screen, chers auditeurs, vous en verrez, saurez un peu plus et saurez ce que vous avez envie d'aller voir, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir bientôt, mais aussi des films anciens qu'on peut voir sur Internet. Je termine avec Berlin, été 1942, un film allemand qui a été tourné en 2024, un film de fiction, tourné par Andreas Dressen. Berlin 1942. La discrète Hilde trouve peu à peu sa place dans le groupe de résistants de l'Orchestre Rouge. Hilde tombe amoureuse de Hans qui s'épanouit malgré le danger permanent qui pèse sur sa vie. Elle est heureuse le temps d'un été. La Gestapo arrête les membres de leur groupe à l'automne alors que Hilde est enceinte. En prison, elle développe une force inattendue et donne naissance à son fils et entretient le souvenir de son mari bien-aimé. Andreas dresse un film qui est très intéressant, qui montre que les Allemands n'étaient pas les gros méchants non plus pour autant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de résistants qui sont morts dans les prisons, on n'a pas eu pitié d'eux. Le réalisateur Andreas Dressen est né à Gera en Allemagne en 1963. Il commence dans le domaine du cinéma en tant qu'assistant réalisateur à la Deutsche Film AG et il étudie ensuite à la réalisation à la Film Universität Babelsberg Konrad Wolf. Et depuis 1992, il est scénariste, réalisateur de films, de théâtre et d'opéra. Son film Grille Point a connu un succès mondial et a notamment été récompensé par l'Ours d'argent à la Berlinale en 2002. En 2011, Stopped on Track remporte le prix. Un certain regard à Cannes, son film Gundermann sort en 2018 et remporte 6 prix du cinéma allemand, dont celui du meilleur film. Berlin été 42 a été présenté en compétition de la Berlinale 2024 avec de très bons acteurs, Liv Lisa Fries dans le rôle de Hilde et Johannes Hegemann dans le rôle de Hans. Voilà. Je finirai en disant que j'ai parlé de La plus précieuse des marchandises qui a clos le film, un film de Michel Hazanavicius, réalisateur, scénariste, producteur et monteur français né en 67, qui a commencé sa carrière en 88 en collaborant sur Canal+ au sketch des nuls, puis a fait ses débuts au cinéma en tant qu'acteur avec La cité de la peur en 1994. Sa première expérience en tant que réalisateur est le long métrage Mes amis en 1999. En 2006, il a réalisé OSS 1117, Le Kerni d'espion et sa suite OSS 117, Rio ne répond plus, en 2009. En 2011, il a tourné en noir et blanc le film The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Je rappelle que sur les OSS 117, qui est un peu le James Bond, un peu comique français, il est son acteur fétiche et bien entendu Jean Dujardin. Le film The Artist avec Bérénice Bejo et Jean Dujardin a remporté plusieurs Césars et Oscars et en 2020, il a été reçu au festival War on Screen en tant qu'invité d'honneur. Voilà. Et donc j'en ai déjà parlé du film, il va sortir. Vous pourrez le voir. Et enfin, un autre film qui n'est pas sorti, qui était le film qui était choisi pour l'entrée et en avant-première, un film de Gianluca Giudice, un réalisateur napolitain né en 1973, qui raconte l'histoire de Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette et leurs enfants. Donc il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés sur Marie-Antoinette et leurs enfants et ce qu'ils ont vécu, mais jamais on avait montré ce qu'ils avaient vécu dans leur prison, dans la prison du Temple, et on les présente là comme de véritables êtres humains dans une lugubre forteresse parisienne, dans l'attente de leur procès. Loin des fastes de Versailles, ils sont isolés et vulnérables pour la première fois de leur vie avec de très bons acteurs français, Guillaume Canet et Mélanie Laurent. C'est cette histoire est vue par un Italien qui a fait lui aussi, d'ailleurs c'est pas le premier, ils ont tous un diplôme de philosophie, les réalisateurs italiens. Voilà. Gianluca Giudice avait en 1999 effectué un court métrage Carne di Topo qui avait reçu le prix Critica Cinematografica e Televisiva, et en 2021 il avait tourné un court métrage La Signorina Olivette qui a remporté plusieurs prix au festival Sacher. En novembre 2002, Il Ritratto di Bambino a remporté la mention spéciale du Festival du film de Turin dans la catégorie des courts-métrages internationaux. En 2013, il a co-réalisé 1992 et en 2014, il a réalisé Cel Canto, La Grande Bellezza, un documentaire sur le film La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Le poète et le dictateur est son premier long-métrage en tant que réalisateur. Il y a beaucoup de très bons réalisateurs, mais les réalisateurs italiens ne faillissent pas à la réputation des grands réalisateurs italiens du siècle dernier. Leurs films sont toujours piquants. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices de Challenge Champagne, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir le festival Brand Screen parce qu'ils travaillaient et que c'était pendant la semaine, bien qu'il y ait eu le week-end, vous pourrez vous inspirer de mon émission pour aller voir quelques-uns de ces films ou aller voir sur le festival du festival Brand Screen. Il y en a plein d'autres qui sont passés. Il y a eu beaucoup d'événements, c'était vraiment intéressant. Il y a eu aussi des conférences, des rencontres, des masterclass, pour nos réalisateurs marseillais, là je parle pour les auditeurs de Radio Mono, et pour nos auditeurs marseillais, allez voir sur le site de War on Screen, il y a plein de films qui vont sortir à Marseille, où il y a aussi des festivals, et puis beaucoup de cinéma ou art et essai, et beaucoup de films qui vont sortir en salle. Je vous laisse, chers auditeurs, terminer cette émission en écoutant Vladimir Shostakovich, Le Quatuor numéro 8, qui est un film, qui est une musique qui parle de la guerre. Je vous souhaite une excellente semaine. Chers auditeurs, je vous laisse écouter le quatuor numéro 8 de Shostakovich et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.